Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui donne la parole à des personnes de diverses générations qui prennent des décisions marquantes à un moment clé de leur vie. C'est le cas de nos deux invités à cette 71e émission d'Au fil du temps. Avec la grisaille de novembre et la petite froidure qui s'installe lentement, plusieurs rêvent de soleil, de chaleur, de couleurs, d'aventures, de prendre la route après des mois de confinement. Vous apprécierez certainement le récit de nos premiers invités, Paul-Marcel Adam et Sonia Sauvette, qui ont vécu à fond l'aventure de la van life pendant un an. Pour célébrer les 40 ans de Sonia, ils ont sillonné plus de 41 000 kilomètres à travers les États-Unis, l'Amérique centrale, le Mexique, dans une boîte de métal de 6 mètres carrés. Cette aventure au mi-temps de la vie m'a intriguée parce que Paul-Marcel et Sonia ne sont pas des retraités. Au contact de diverses cultures, ils ont été confrontés à plein de niveaux, notamment sur la vision du rôle des enfants lorsqu'on vieillit, sur le lien qu'on garde avec nos enfants adultes lorsqu'on se lance dans un tel projet, sur comment apprivoiser l'être plutôt que le faire alors qu'on n'est pas encore à l'âge de la retraite. Vous vous rappelez peut-être que nous avions reçu le 27 juillet dernier une femme, Christine Marsolet, qui convoitait ce même grand rêve de partir sur la route. Récemment élue comme conseillère municipale, Christine doit reporter ce projet et sans doute que le récit de Paul-Marcel et Sonia sera certainement l'inspiré. Parlant de politique, notre deuxième invité est le premier autochtone à avoir été élu comme député à l'âge de 24 ans. Vous connaissez peut-être Alexis Wawanoloat grâce à l'émission « Coué bonjour » qu'il co-anime avec Robert Blondin d'une autre génération et culture que lui. Avec la première journée de la vérité de la réconciliation le 30 septembre dernier, l'histoire des Premières Nations a enfin plus d'écoute. Nous sommes davantage sensibilisés à ce qu'ont vécu les générations d'avant et celles d'aujourd'hui. En quoi être un jeune autochtone est-il différent aujourd'hui par rapport à hier? Comment la spiritualité des Premières Nations se transmet de nos jours? Aujourd'hui avocat, Alexis saura certainement nous entretenir de ses rêves de changement pour les futures générations. Comme vous le voyez, des gens qui bougent et qui vont à la rencontre des autres, tel est le but des voyages au fond. Amorçons donc cette 71e émission d'Au fil du temps en musique avec Voyage à Miami de Pauline Julien pendant que l'on accueille Paul-Marcel Adam et Sonia Sauvette pour un couple dans le van.
Si on pouvait gagner le jackpot, on s'achèterait une belle roulotte. Tu dirais bye bye à ton boss, puis moi au mien. Puis on partirait rouler notre sur les grands chemins, passer nos hivers en Floride, nos soudes dans le Laurentide. On est parti un beau samedi pour aller vivre à Miami. Mon mari qui parle pas l'anglais, puis moi non. Je vous dis qu'on était pas à pied avec notre roulotte de 40 pieds qu'on avait acheté à crédit, bien entendu. Comme c'était moi qui conduisais, j'étais dans tous mes états. C'était la première fois qu'on allait aux états. Mais mon mari, comme d'habitude, était bien détendu. Il me disait, énerve-toi donc pas avant qu'on soit rendu. On n'était pas rendu à frontière, qu'on avait déjà de la misère. Mon mari qui parle pas l'anglais, puis moi non plus. Ils ont essayé de nous questionner, ils ont fini par toutes nous fouiller. Puis ils nous ont laissé passer, ils ont bien fallu. Rendu vers la fin de la journée, moi là j'en pouvais plus. C'était mon mari qui conduisait, ils ont jamais eu une bien bonne vue. Au lieu de contourner New York par l'autoroute de New Jersey, on s'est retrouvés en plein New York avec notre roulotte de 40 pieds au milieu de la 5e avenue.
Si on pouvait gagner le jackpot, on s'achèterait une belle roulotte. Tu dirais bye bye à ton boss, puis moi au mien. Puis on partirait rouler notre boss sur les grands chemins.
Passeport du Canada, la police, ça comprenait pas que mon mari parle pas l'anglais, puis moi non. Au lieu de nous mettre en prison, elle nous a reconduits jusqu'au pont. On l'a encore échappé belle une fois de plus. Moi qui rêvais de parader sur la 5e avenue, mais j'ai paradé dessus, puis je m'en suis pas aperçu. Puis la statue de la liberté qu'on voit toujours dans toutes les vues, on est passé juste à côté, puis je l'ai même pas vu. Quand on était sorti de là, on n'était pas sorti du bois, mon mari qui parle pas l'anglais, puis moi non. On n'a même pas cherché un spot pour pouvoir plugger la roulotte. On a couché dans le premier motel qu'on a vu. À la TV, il y avait un film avec Burt Lancaster. Quand j'ai entendu parler anglais, j'ai perdu le kick dessus. Puis mon mari digérait pas les maudits hamburgers qu'on avait mangé pour souper, parce que c'était le seul mot d'anglais qu'on avait compris sur le menu.
Si on pouvait gagner le jackpot, on s'achèterait une belle roulotte. Tu dirais bye bye à ton boss, puis moi au mien. Puis on partirait rouler notre boss sur les grands chemins.
Mais on a fait 300 000 pour rien. C'est là que j'ai dit, si j'avais su, moi, je serais pas venue. Mon mari me dit, il est pas trop tard, on peut encore en revirer devant. J'ai dit, ok, puis fais ça vite, moi, j'en peux plus. On est revenu à Montréal, je vous dis que ça a pas pris de temps. Quand on a perçu le Mont-Royal, je vous dis qu'on était content. Puis on n'a pas cherché longtemps, on s'est trouvé un beau logement juste de l'autre côté de la rue, où ce qu'on était avant. La roulotte est partie dans le cours, on a mis des lumières tout le tour. Puis samedi soir, c'est le rendez-vous de toute la rue. On savait pas quoi faire avec, fait qu'on a fait une discothèque. Le temps des roulottes à patates est révolu. À part de ça, si on s'ennuie le dimanche après-midi, tu m'amèneras faire de la moto sur l'autoroute du Nord. Tu m'amèneras faire du bateau sur le lac des Castors. Mais pas le mot plus de Miami, puis de tous les États-Unis, si tu veux pas me mettre en maudit.
Je peux toujours planter des carottes autour des roues de la roulotte. Soit demain matin, qu'à pas sortir de dans son coin. Partir sur les grands chemins,
passer nos hivers en Floride, nos étés dans le Laurentide,
passer nos hivers en Floride, nos étés dans le Laurentide.
C'était Voyage à Miami de Pauline Julien. Oui, Paul Marcel Adam et Sonia Sauvette ont aussi dit bye-bye à leur boss, mais ce n'est pas dans une roulotte de 40 pieds et ils sont allés beaucoup plus loin que la Floride. En fait, ils ont parcouru à travers une vanne plus de 9 pays pendant 365 jours. Ils en ont tiré un livre vraiment intéressant qui s'appelle plutôt Un couple dans le van, 365 jours sur la route, et on les accueille avec grand plaisir. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
J'écoutais la chanson, ça a dû vous rappeler toutes sortes de souvenirs.
Oui, effectivement, oui, on sourit en écoutant ça. Oui, effectivement, c'est déjà une chanson que je connaissais d'il y a longtemps. Mais oui, ça nous rappelait, nous, le fait d'avoir du bye-bye à nos boss, effectivement, et de partir sur la route.
Et de passer les douanes.
Oui! Il y a tellement d'anecdotes savoureuses dans ce livre. Et c'est sûr que moi, ce qui m'a d'abord intriguée, c'est que c'est souvent un type de projet qu'on garde pour la retraite. Et dans votre cas, je pense que ça a été plus, c'est un projet qui mijotait depuis un certain temps. Et ce que j'ai compris, le déclencheur, là, c'était le passage à 40 ans, Sonia.
Oui, c'est exactement ça. En fait, ça faisait longtemps qu'on rêvait avec Paul. Et puis, on s'était dit, quand j'aurai 40 ans, à un moment donné, il faudrait changer de vie, essayer de faire autre chose. Et puis, donc, ça a été vraiment un peu comme notre date butoir. On se disait... quand j'aurai 40 ans, on fera ça, sans savoir que j'allais vraiment avoir 40 ans à un moment donné, et on allait se jeter à l'eau.
Donc, est-ce que ça n'a pas été une sabbatique? Ce que je comprends, vous avez vraiment voulu dire, on largue les amarres et on verra quand on revient.
Effectivement, parce que la décision de quitter, elle venait aussi du fait qu'on ne s'y retrouvait plus dans le travail qu'on faisait. Mm. Le stress inhérent au travail dans des grandes entreprises, beaucoup de gens peuvent reconnaître ça, c'est fatigant et il arrive un moment où on se dit non, on ne veut plus avoir ce rythme de vie-là, on ne veut plus endurer ça. Et donc, à partir de là, on a pris cette décision-là de tout quitter et sachant qu'effectivement, c'était sans filet, mais par ailleurs, on croyait en nos ressources et à la capacité de faire autre chose par la suite, mais on voulait quand même tester la route et voir où ça pouvait nous mener.
En termes de tester la route conjugale, vous aviez déjà quand même 10 ans au compteur, à ce que je comprends?
Oui.
C'est ça, puis aujourd'hui, on est encore ensemble 17 ans plus tard. Donc c'est que, en fait, la route nous a appris à nous connaître. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, on pensait déjà se connaître bien, puis on se connaissait bien, mais vivre vraiment dans une proximité comme on l'a vécu pendant un an, ça nous a encore beaucoup rapprochés, ça a donné une autre dimension au mot intimité et puis à la notion de confiance qu'on a l'un envers l'autre et de respect surtout.
Mais je lisais justement et je vous entendais dans d'autres entrevues où vous disiez que de tous les couples que vous avez rencontrés à travers votre périple, tous vous posaient la question, est-ce que vous êtes chicané?
Mais oui, mais en fait, c'est ce qu'on a découvert en étant sur la route, mais c'est très, très basique, c'est que dans les vies de couple habituelles, on ne se voit pas 24 heures sur 24. La plupart de nos journées, le plus long de nos journées, on est au bureau. Donc, on ne se voit que le soir, les fins de semaine. Et là, on se retrouve constamment ensemble, sans réel échappatoire possible. Donc, on ne peut pas partir avec les copains, les copines pour aller changer les idées sans le conjoint. Alors, fatalement, il arrive des moments où on doit régler les choses. Il faut se parler plus que jamais. Et chaque petit accro de la vie, il ne faut pas le laisser devenir une montagne, il faut les régler. Et chacun des couples qu'on rencontrait sur la route se retrouvait à vivre ça, mais dans l'étonnement, en se disant, ben pourtant, on s'entendait bien à la maison, qu'est-ce qui nous arrive? Tout d'un coup, il faut régler tellement de choses. Et c'est la question qui revenait, et forcément, tout le monde convenait que c'était un passage obligé, mais intéressant aussi, parce que si on veut connaître l'autre, quoi de mieux que de voyager ensemble?
Bien, en fait, c'est souvent au moment de la retraite, effectivement, que cette espèce de choc-là survient chez beaucoup de couples parce que tout à coup, l'activité professionnelle n'est plus à l'avant-plan. Donc, vous l'avez vécu avant ce passage-là.
C'est ça, parce que déjà, on a une différence d'âge. Mm-hmm. Donc, on ne voulait pas attendre que l'un ou l'autre soit à la retraite. Et puis, en plus, c'était vraiment... avec Paul, on a toujours eu plein de projets en tête, plein de choses. Mais celui-ci nous tenait vraiment à cœur et on voulait le réaliser plus tôt que tard. Donc, c'est pour ça qu'on est parti quand moi, j'avais 40 ans.
Je pense que vous avez quoi, une quinzaine d'années de différence?
On a 13 ans et demi, oui.
13 ans et demi, excusez, je vous ai arrondi ça.
C'est bon.
Il y a un passage du livre qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est Sonia qui s'exprime sur la différence entre le faire et l'être. Et je me dis que c'est sans doute, quand les gens prennent leur retraite, un des plus gros chocs qu'ils ont à traverser.
C'est fort probable parce que quand on se retrouve en fait sans activité professionnelle, on se retrouve un peu face à soi, puis on a plus de temps, en tout cas c'est ce qui est arrivé pour moi sur la route, plus de temps pour réfléchir, pour vivre aussi ce que je voulais être, mais j'étais dans une culpabilité d'être et de prendre le temps de vivre. Et puis j'étais tout le temps, je voulais tout le temps être dans le faire quelque chose, la rentabilité, l'occupation de mon temps. Et j'oubliais un peu qui j'étais, moi, Sonia Sauvette, comme femme, comme individu, comme être humain. Et je me suis retrouvée face à ce questionnement sur la route. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres femmes qui voyageaient, qui avaient ces mêmes questions, parce que les miroirs disparaissent, les masques tombent et on est face à soi. Et donc, ce sont des questions qui ne sont pas évidentes à répondre et puis à se poser également, parce qu'il faut accepter de se poser ces questions, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, les travers que je vois en moi, comment est-ce que je les accepte, est-ce que je les change? Et c'est là qu'on apprend à être au-delà du paraître. Mais c'est difficile, c'est très difficile.
Même vous, je pense que j'ai lu, ça a pris quasiment 267 jours avant de réussir à être dans une forme de contemplation et d'être seulement dans le être.
Exactement. Puis j'ai toujours cette image en tête au lac Petanitsa, on était au Guatemala, et c'était vraiment comme une espèce de bien-être qui est rentré en moi, une sensation assez particulière que je pourrais jamais oublier, et pour ce lieu-là reste très particulier dans mon cœur maintenant. Je me suis vraiment sentie être en phase avec qui j'étais, avec la femme que j'étais, et c'est vraiment un sentiment de plénitude que je pourrais jamais oublier, même 4 ans et demi plus tard.
Avez-vous peut-être des conseils, pas nécessairement à des gens qui voudraient faire la même aventure, mais qui arrivent à une période de la vie où qui doivent justement embrasser le être plutôt que le faire? Comment y arriver sans ressentir trop un vide?
Moi, j'ai l'impression que ça relève beaucoup des peurs qu'on accumule durant notre vie. Et pour contrer ces peurs-là, on se lance dans un travail ou des activités qui, je dirais, étourdissent, mais sans être péjoratif sur l'idée, mais qui fait qu'on se sent toujours occupé. Donc, on n'est pas dans la réflexion de ce qu'on doit être comme personne. Alors, la peur vient à partir du moment qu'on se dit « je veux changer, je veux aller vers une nouvelle direction, j'ai des rêves, des aspirations ». Est-ce que je pourrais les réaliser? Et ce qu'on s'est rendu compte par ce voyage-là, c'est que même si on a pris une décision qui était difficile et aux yeux de certains qui était grave, le fait de laisser notre job, on s'est rendu compte que c'était payant, entre guillemets, dans le sens que ça nous a apporté énormément sur nous, sur nos capacités, sur la façon de relever des nouveaux défis, sur comprendre qui on est comme personne. Et ça, je crois que si j'avais un conseil pour le peu d'expérience que je peux avoir, mais j'ai fait de ce voyage-là, c'est d'avoir le courage de nos rêves et se décider d'y aller et mettre la petite voix qui nous fait toujours craindre le pire, la mettre un peu en veilleuse, puis dire non, on peut essayer des choses, on peut y aller. Puis je crois que c'est ce qui nous rend plus heureux ou en tout cas plus épanouis dans notre vie.
Est-ce que ça a été une grande décision? Je sais que votre fils était Félix, je crois, un jeune adulte ou pas loin quand vous avez pris cette décision?
Effectivement. Il était dans la vingtaine. Je me souviens, mi-vingtaine, à peu près. Mi-vingtaine et c'est ça. Donc, autonome. Oui, tout à fait.
Donc, c'était... vous saviez qu'il pouvait se débrouiller. Comment vous envisagiez la relation, justement, de pouvoir garder contact? Parce que déjà, c'est un détachement quand les enfants partent de la maison. Là, c'est une autre aventure. On part pour un an.
Oui, effectivement. C'est sûr que... j'avais confiance en lui, à sa façon de vivre sa vie. Bon, ça, c'était OK. Je savais qu'il était capable de se débrouiller sans moi. Les contacts duraient, ils pouvaient se poursuivre par l'entremise, évidemment, du téléphone. Mais on s'était donné rendez-vous au Costa Rica parce qu'il nous a dit qu'avec sa copine, il aimerait venir nous retrouver. Mm-hmm. Et donc, il est venu passer le temps des fêtes au Costa Rica. Donc, c'était au mi-temps de notre voyage. Il est venu pour 2 semaines avec nous et il a voyagé. Ils se sont loués une petite voiture et ils nous ont suivis dans notre périple en van. Alors, ils ont expérimenté un peu ce qu'on vivait. Eux couchaient dans la tente à côté. Et on a vécu des belles aventures ensemble. Ça nous a rapprochés d'autant plus que se retrouver dans un cadre totalement différent à l'étranger. Et ça lui permettait de voir un peu ce que nous, on vivait, nous, de le voir agir dans ce nouvel environnement-là. Et ça a été très bénéfique, vraiment extrêmement plaisant.
Si vous voulez bien, on va aller en musique quelques instants. Et j'aimerais ça poursuivre un petit peu dans cette veine-là de parler de la relation aux enfants, mais aussi un peu le choc que d'autres cultures ont eu en vous entendant parler de notre manière de vivre nos familles. Donc, on écoute un voyage de Bernard Lavillier.
Voyage, il y a ce que l'on fait et ce qu'on imagine. Voyage, raté ou merveilleux et toujours anonyme. Toujours. Toujours plus loin on va vers l'origine. Toujours vers le danger d'ailleurs, enfin on l'imagine. Partir, partir quand le soleil se lève. Courir aussi vite qu'on rêve. Sentir que la vie se retire encore. Savoir que leur vie se ressemble comme des banlieues rouillées. Voyage, le cœur abandonné sous cette pluie d'exil. Voyage, ces visages inconnus sur l'asphalte des villes. Regarde ces millions d'êtres humains qui se croisent et s'ignorent. Regarde vers quel destin fragile, vers quelle toison d'or. Partir, partir quand le soleil se lève. Courir aussi vite qu'on rêve. Sentir que la vie se retire encore. Savoir que leur vie se ressemble comme des banlieues rouillées. Sur la nuit, partir, partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble. Partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble comme des banlieues rouillées.
C'était « Voyage » de Bernard Lavillier. En lisant votre récit, Sonia et Paul Marcel, je me suis vraiment rendu compte que c'était au fond l'occasion de créer un lien encore plus grande qualité avec nos enfants, le fait qu'ils viennent nous visiter, puis de passer autant de temps ensemble versus se voir à des soupers une fois par mois, une fois par semaine.
Mais c'est sûr que c'est très différent parce qu'en plus, on vit le quotidien, mm-hmm. mais on vit dans un quotidien qui est détaché des pressions du quotidien.
Oui.
Donc, c'est très différent. Le temps n'est pas le même. On prend plus le temps de se lever ensemble, de prendre un café, de discuter. C'est vraiment un temps de qualité qui n'a rien à voir avec celui de passer autour d'un souper, par exemple, où on doit se dépêcher pour faire le souper, ranger, le lendemain, on se lève. Donc, c'est vraiment un mode de vie et un temps qui sont très différents.
Donc, de ne pas se sentir coupable si justement des gens ont des jeunes adultes et n'osent pas parce qu'ils ont l'impression que leurs enfants auront besoin d'eux. Bien là, je pense que vous prouvez qu'on est capable de garder le lien et de créer une expérience vraiment enrichissante.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, c'est sûr que ce sentiment de culpabilité, on l'a tous à un moment donné, mais je pense qu'il faut faire ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable mm-hmm. de faire avec le temps que l'on a, parce qu'on a tous des vies un petit peu très occupées, où on court beaucoup. Et justement, ce voyage nous a appris à pouvoir prendre le temps et à avoir envie de prendre le temps pour les gens qu'on aime. Et c'est ce qu'on a fait quand on est revenu de voyage. Paul s'est occupé de ses parents. Mmh. Je me suis occupée de ma maman et puis je vais continuer à le faire. Ma maman est en France,
oui.
Mais ça nous a donné d'autres perspectives, en tout cas sur ce rapport intergénérationnel, aussi bien avec les plus jeunes qu'avec les plus vieux qui sont autour de nous.
Bien, il y a d'ailleurs justement des gens que vous avez rencontrés, je crois, au Guatemala, qui étaient surpris de voir notre modèle au Québec, là, de, entre parenthèses, placer ses parents et qui vous ont interpellé en disant bien, pourquoi les enfants ne vous gardent pas à la maison?
Oui, je me souviens de ce monsieur qui était le guide d'une finca de café où on est allé. Mm-hmm. Il nous expliquait comment il vivait, puis on lui posait beaucoup de questions. Et puis, donc, il nous parlait, donc, lui, il vivait avec sa fille et puis ses parents. Et donc, ses parents s'occupaient de sa fille. Et puis ensuite, quand ses parents vont être trop vieux, c'est lui qui va s'occuper de ses parents. Donc, toute cette connexion intergénérationnelle. Et après, il m'a demandé comment on vivait, nous, parce que déjà, les gens étaient très curieux qu'on ne voyage pas avec des enfants.
Mmh.
Tout le monde nous demandait où étaient nos enfants, parce que pour eux, ce n'est pas normal de ne pas avoir d'enfants autour de soi. Et puis là, on a essayé d'expliquer à ce monsieur, et plus on parlait, et plus je voyais son visage, qui, en fait, très incrédule, il ne comprenait pas ce qu'on voulait lui expliquer. Quand on lui disait que nos parents étaient dans des maisons de retraite, qu'on ne vivait pas ensemble, pour lui, c'était très, très incongru. C'était vraiment... Et ce monsieur nous a fait beaucoup réfléchir. Oui, parce qu'il nous renvoyait un peu en plein visage à une espèce d'atomisation, en fait, des individus dans nos sociétés qui nous conviennent beaucoup par notre mode de vie, mais où on ségrègue un petit peu chaque génération. Et puis, j'ai l'impression qu'on se dit que plus on est autonome, plus on est libre, plus on est indépendant. Et puis, on s'est rendu compte un petit peu que d'être libre et d'être autonome et indépendant, ce n'était pas forcément vivre entre chacun pour soi ou entre soi, et que le contact des autres pouvait beaucoup nous apporter. Et ça a changé beaucoup notre relation à nos parents quand on est revenu.
Je retire de votre livre, parce qu'on est déjà à la toute fin, de belles rencontres avec des individus qui ont marqué votre route. Et j'invite nos auditeurs à lire votre livre qui s'appelle « Un couple dans le van, 365 jours sur la route » aux éditions Château d'Ancre. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Chantal.
Merci.
Après la pause, on parle avec Alexis Wawanoloat.
Vous écoutez « Au fil du temps » avec Chantal Doré.
Que vous entrepreniez un court ou un long voyage, vous voudrez certainement faire le plein de bons contenus audio. Et c'est ce qu'on vous offre à canalem.vusezvoix.com. Vous allez retrouver le lien vers toutes nos émissions qui sont également, on peut les entendre à CKVL le jeudi midi, mais vous pouvez aussi réécouter avec plaisir, je l'espère, nos émissions sur Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Tout de suite après la pièce musicale, on reçoit Alexis Wawanoloat, qui est aussi animateur ici à Coué Bonjour sur Canalem. Alors, pour rendre hommage aux Premières Nations, tout le bloc, deuxième bloc musical et de la musique inspirée par des créateurs. Florent Volant d'abord avec Niniaout.
Mashwat me chewan, nushwok ni jewa ni kumak e kumak nim to nushwok ni jewa.
Out de Florent Volant, son album de Noël magnifique est d'ailleurs dans ma liste de prédilection. Ça se peut qu'on vous en fasse écouter un extrait d'ici une semaine ou deux. Notre prochaine invitée, peut-être que vous reconnaissez sa voix si vous écoutez Coué Bonjour ici sur les ondes Canal M, Alexis Wawa Noloat. Il est devenu en 2007, à l'âge tendre de 24 ans, le premier autochtone à siéger à l'Assemblée nationale du Québec pour le Parti québécois. Il est maintenant avocat et il utilise le droit en tant qu'outil décolonisation. Mon Dieu, je suis désolée. Il va nous reprendre ça comme il faut. Et avec la première journée Vérité et Réconciliation, je pense qu'on semble amorcer une démarche de reconnaissance des impacts générationnels. Alors, je trouvais vraiment important de recevoir Alexis pour nous brosser un petit peu un portrait de tout ce qui est, de tous les impacts, les sacrifices sur la vie familiale, l'impact intergénérationnel de ce que les Premières Nations ont vécu. Alors, bref, bonjour Alexis.
Quoi?
Oui. Je nous ai scrappé décolonisation solide en commençant.
Oui, mais en même temps, on en parle peu. Ça fait pas si longtemps qu'on apprend. On aime mieux parler de réconciliation que de décolonisation. Parce que le terme réconciliation vient nous faire penser que la colonisation, c'est quelque chose de passé, quand c'est toujours quelque chose d'actuel. Puis si je peux conduire sur ce que vous disiez par rapport aux impacts intergénérationnels des pensionnats, bien, on le voit encore aujourd'hui que les pensionnats ont fait en sorte qu'on a eu des personnes qui ont eu des gros chocs post-traumatiques après avoir passé par ces endroits-là, un peu comme quand on va en prison ou d'autres événements très marquants négativement. Puis ça fait aussi en sorte que beaucoup de ces personnes-là avaient pas nécessairement toutes les meilleures compétences parentales. On reproduit souvent qu'est-ce qu'on a vécu dans notre prime jeunesse. Puis là, on a pris des enfants parce qu'ils étaient autochtones. Puis c'est la définition, c'est une des définitions de génocide en passant. Hein.
Ouais.
Donc, le Canada est un État génocidaire. Mais bon, tout ça pour dire qu'on a pris des enfants qui étaient, à cause qu'ils étaient autochtones, pour tuer l'Indien dans l'enfant.
Tuer l'âme?
Oui, tuer l'âme. Faire en sorte qu'ils deviennent des bons petits cultivateurs ou des bonnes petites ménagères pour les filles. Et en plus de toute la honte qu'on induisait chez ces enfants-là de leur propre culture, de leur propre nation, on leur interdisait de parler leur langue. Ben, dans bien des cas, on a donné ces enfants-là sous la responsabilité de prêtres. Puis on le sait partout dans le monde, quand on a laissé la responsabilité à des enfants, à des prêtres...
C'est pas toujours été heureux, hein?
C'est généralement pas heureux, non. Donc, en plus de tout ce qui était institutionnel, institutionnalisé pour sortir justement notre indianité, notre autochtonicité de ces enfants-là, bon, ben, il y a eu tous les abus physiques, les abus sexuels. Mm. Donc, on se retrouve avec des gens qui revenaient dans les communautés après ça, puis qui avaient des enfants aussi. Puis c'est ça, hein, ça n'a pas été facile pour ces personnes-là, puis ça n'a pas été facile pour leurs enfants, vous pouvez bien vous imaginer.
Et pourtant, ça fait longtemps qu'on souligne ces problèmes-là, ces enjeux-là. Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait des femmes disparues, assassinées. En fait, on en parlait, mais sur la pointe des pieds. On dirait qu'il a fallu justement ce drame-là des pensionnats pour que les gens réalisent à quel point ça a été grave.
Oui, surtout que l'enquête sur les femmes assassinées et disparues a eu lieu. On est venu à des conclusions assez claires qu'il y a un génocide au Canada puis qu'il se poursuit parce que les gouvernements n'agissent pas pour le terminer, pour qu'il s'arrête. Puis c'est un peu comme la même chose avec la Commission Vérité et Réconciliation en 2015. Où on a parlé du terme génocide culturel. On a plus débattu du terme que des solutions, puis on a des actions à poser pour qu'on puisse réparer ce qui s'est passé. Puis vous savez, des commissions, c'était pas les premières. Là, on a la Commission royale sur les peuples autochtones qui, dans les années 90, mettait tout en place pour justement en arriver vers un chemin de la réparation, vers un chemin où on aurait pu parler de réconciliation. En ce moment, je trouve que le terme est très galvaudé. Mm-hmm. On utilise réconciliation comme un objet rhétorique. Puis c'est à l'avantage de qui? De l'État colonisateur.
Oui. Qu'est-ce qu'on voudrait?
Mais qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, je pense que il n'y aura pas de justice quand il n'y aura pas de réparation. Il y a eu certaines réparations individuelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les réparations collectives? Pour les réparations, on a réparé auprès des personnes qui ont vécu le pensionnat. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour réparer les collectivités qui ont été en grande partie touchées par ça? Qu'est-ce qu'on fait pour réparer pour les enfants puis les petits-enfants des pensionnaires qui vivent encore avec les conséquences intergénérationnelles des pensionnats? On est venu, il y a eu tout après ça la rave des années 60. On est venu à faire un certain règlement pour permettre à des compensations individuelles. Mais au-delà des compensations individuelles, on voyait que le gouvernement Martin, à l'époque, avait un certain plan. Il y avait eu les accords de Kelowna, une grande conférence avec les Premières Nations, où le gouvernement s'engageait à faire en sorte d'investir en éducation, dans les infrastructures, puis dans certains programmes de santé communautaire pour juste arriver à une certaine réparation. Le gouvernement Harper est arrivé en place, a tout mis ça à la poubelle. Et là, on se retrouve avec un gouvernement Trudeau qui est venu pleurer à l'ONU pour parler du traitement fait envers les Autochtones, puis tout ça. Puis 6 ans, quasiment après qu'il soit en poste, il y a toujours des communautés qui n'ont pas d'eau dans leur communauté.
C'est terrible, puis je réalise à quel point beaucoup de gens ont pratiquement appris ça cette année.
Ouais. Oui, parce qu'on en parle de ça, parce que justement, si on n'a pas eu de couverture médiatique, c'est que c'était pas un sujet qui était assez important pour les médias. Vous savez, les Wet'suwet'en, on a depuis l'arrêt d'Elgalmuk, ça fait à peu près 20 ans que la Cour suprême est venue dire, bon, ben, on ne réglera pas votre problème, ça serait mieux que vous négociez. Les Wet'suwet'en, il a fallu qu'on fasse une crise ferroviaire coast to coast pour que le gouvernement du Canada et de la Colombie-Britannique s'assoient. Les deux gouvernements s'assient de bonne foi pour faire des négociations de bonne foi. Donc, il y a tout le temps la question que est-ce que les gouvernements coloniaux ont l'intérêt de changer puis de se sortir du colonialisme.
Ouais.
On le voit ici avec aussi, encore là, dernièrement, les Wet'suwet'en ont encore dit non, qu'on veut qu'on vous tasse. C'est même pas, on veut pas du pipeline, on veut que vous le déplaciez pour conserver une zone qui est culturellement importante pour nous. C'est même pas comme un non définitif au développement libéral, comme on l'entend, au développement économique, mais juste l'accommodement. Et encore là, on a des compagnies qui utilisent les injonctions, qui utilisent le droit, qui vont utiliser la GRC. La GRC, rappelons-nous, qui avait été créée pour pacifier l'Ouest. Là, beaucoup d'Autochtones les appellent les Indian Killers, là, les membres de la GRC. Donc, qu'on utilise la GRC à pointe du fusil, encore une fois, pour sortir les Wet'suwet'en de leur territoire.
Alexis, je vois vraiment comment vous allez exercer, vous exercez votre profession comme avocat. Vous avez la passion de tout ça. J'ai envie, compte tenu de l'angle intergénérationnel de notre émission, vous emmener peut-être sur un terrain plus personnel, relié à la spiritualité. Je sais que vous avez deux enfants et je vous ai entendu dans une émission parler que la vie de député avait été difficile au niveau de la vie familiale, que c'est très challengeant pour toutes les personnes qui sont appelées à faire un devoir public. Donc, j'étais curieuse de voir comment on arrive à continuer à transmettre notre culture et notre spiritualité qui est si riche d'une génération à l'autre.
Ben moi, ça a été le choix de parvenir en politique, entre autres, en 2012. À ce moment-là, j'aurais eu la possibilité de devenir député. J'aurais eu des bonnes chances de devenir ministre par la suite, mais j'ai fait le choix de me dire que la petite enfance de mes enfants était plus importante que les ambitions personnelles que je pouvais avoir à ce moment-là.
Bravo.
Donc, la politique va toujours être là. Dans une certaine mesure, la petite enfance de mes filles allait pas revenir. Ça se fait en choisissant des noms. Des noms, des prénoms, comme avec ma dernière. J'ai une troisième aussi qui a 9 mois. Là.
Ah oui?
On a fait un choix avec la mère de ma fille de l'appeler Sacha Onzalé. Onzalé avec un 8 dedans, donc un 8 qui représente le son A. Donc, moi, je le sais que de par mon nom et tout ça, je ne pouvais pas me cacher du fait que j'étais autochtone. Ça a été un élément marquant.
Alors que vous auriez pu porter le nom de votre père, Larouche, je crois?
C'est ça, oui. J'aurais pu être un Larouche ou j'aurais pu même être un Sioui. Mais bon.
Nom de votre mère.
Oui, donc tout ça pour dire que ça a été quand même un marqueur important de mon identité. Fait que mes filles, en plus d'avoir un nom de famille Abenaki, ils ont toutes les trois un prénom Abenaki.
Puis comment on arrive à... Parce que, tu sais, je vois, on parle d'appropriation culturelle, mais en même temps, en tout cas, moi, j'ai toujours été impressionnée par la spiritualité des Premières Nations, par la vision du développement durable. Tu sais, je regarde même dans le LGBTQ2S, ça vient aussi Two Spirit des Premières Nations. Donc, en tout cas, je suis interloquée à quel point la spiritualité puis la vision du développement durable, vous l'aviez déjà depuis tellement longtemps.
Donc, oui, c'était quand même quelque chose. C'est une philosophie, hein, puis c'est ça qui est arrivé, entre autres. C'est des chocs de philosophie où on a la philosophie libérale, que le pivot de la philosophie libérale, on pourrait dire, c'est la propriété privée, puis la capacité d'en accumuler le plus possible. Puis le pivot, après ça, de beaucoup de spiritualité des Premières Nations, c'est le territoire.
Ouais.
Le fait qu'on en fait partie, qu'il ne nous appartient pas, qu'on est gardien du territoire. Donc, c'est des chocs de philosophiques assez importants. Donc, moi, je pense qu'éventuellement, il serait intéressant pour tout le monde que la philosophie des Premières Nations puisse prendre peut-être plus de place dans nos cadres de loi, tu sais. Je pense qu'il serait important qu'on redéfinisse la relation dans laquelle on est. Puis ça peut se faire, oui, par des traités, par des lois, mais ultimement, je pense que ça devrait se faire par un changement constitutionnel assez grand. entre autres en reconnaissant les Premières Nations vraiment comme un ordre de gouvernement. Je pense que ça serait important. Puis, au-delà de, du bienfait pour les Premières Nations de pouvoir avoir la capacité de prendre en main leur destinée, je pense que, comme je le disais, la, la, la philosophie des Premières Nations, tout le monde aurait avantage à ce qu'on puisse l'insérer. Par exemple, dans le préambule, où on pourrait avoir des éléments qui disent que quand on fait des décisions, on pourrait les prendre en cercle. Tout le monde a sa place dans le cercle.
Absolument.
Quand on fait des décisions, on pourrait aussi penser aux 7 prochaines générations.
Absolument.
Ça pourrait être des éléments qui pourraient changer vraiment la, la façon de faire, le droit environnemental, le droit aussi, l'idée de démocratie participative plutôt que représentative. Donc,
Alexis, si on veut se familiariser davantage, on incite les gens peut-être à écouter Coué Bonjour.
Oui, Coué Bonjour.
Que vous avez co-animé avec Robert Blondin.
Robert Blondin, oui. Un beau duo intergénérationnel.
Qu'est-ce que vous retirez en terminant de cette co-animation-là avec Robert?
Beaucoup d'apprentissage de ma part. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec un vieux routier de la communication comme ça. Moi, j'avais quelques expériences de chroniqueur ou des choses comme ça, mais animé avec quelqu'un qui a autant d'expérience, autant de naturel, c'est une possibilité pour moi qui est d'apprendre, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Okay.
Merci de, à la fois de toutes vos connaissances, de votre grand cœur, de votre sensibilité, de votre enthousiasme à faire avancer les choses, Alexis.
Oléonie, ça veut dire merci en abénaki.
Oléonie?
Oui.
Oléonie, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Sous des pluies diluviennes, nous sommes nés ivres, corps échoués sur les rivages en eau douce. Nous survolons la montée des eaux, nous sommes les rescapés, nous seuls avons bu la mer entière pour retrouver en nos propres yeux la rédemption.
Nous sommes infinis.
Nous sommes infinis.
Traversons le cristal.
Nous traversons le cristal.
Des heures de glace.
Des heures de glace.
Et de cassure.
Et de cassure.
Nous aux diamants et améthystes.
Nous aux diamants et améthystes.
Illumine la nuit.
Illumine la nuit.
Nous nous abreuvons.
Des corneilles. Dans les cavités, les ondes nous submergent. Nous avons avalé les Alpes et les rocheuses. Nous brûlons la courbe du néant, notre peau empreinte de l'horizon. Sous nos robes, nous inondons les frissons et les chars d'assaut.
Nous sommes infinis.
Nous sommes infinis.
Traversons le cristal.
Traversons le cristal.
Des heures de glace.
Des heures de glace.
Et de cassure.
Et de cassure.
Nous aux diamants et améthystes.
Diamants et améthystes.
Illumine la nuit.
Illumine la nuit.
Nous nous abreuvons. Nous sommes diamants et améthystes.
Sur les mers, nous avançons pour notre passage.
Ça s'appelle Infini, IES, du tout récent micro-album de la poétesse Natacha Canapé. En écoutant Alexis Wawan Oloat, vous avez sans doute été subjugué par sa grande intelligence, sa grande sensibilité. Et si on écoute d'autres entrevues, on s'aperçoit à quel point, je dirais pas c'est un jeune prodige, mais pour avoir autant fait à un si jeune âge, 24 ans, pour devenir députée, c'est quelque chose. Et au hasard de mes promenades sur Internet, je suis tombée sur un prodige de l'électronique, Olivier, 10 ans, qui sait réparer une foule d'appareils électroniques, qui a même des clients. Ça vous dit de découvrir Olivier. C'est dans un reportage vidéo de Radio-Canada Estrie, où on voit surtout la relation avec son mentor, Jacques Simard, un beau monsieur à la tête blanche qu'il reçoit bénévolement chaque samedi et qui dit d'ailleurs que son jeune protégé l'a déjà dépassé. On retourne en musique avec Elisapie, Ton vieux nom.
J'ai rêvé cette nuit que tu dansais au milieu d'une terre brûlée, comme si les pas t'appartenaient, comme si tu les avais inventés. Tu es né fort avec les joues rondes, des mains qui n'ont pas peur du froid, des yeux qui tremblent sur le monde, mais des mots qui ne viennent pas. Dis-moi comment tu plantais la neige, comment nous sommes faits de pierre. Je veux t'écrire une chanson pour te rappeler ton nom. Ton vieux nom. Les chiens ne rentrent plus à la tombée du jour, et dehors les lunes hurlent à la mer. Les oiseaux quittent tour à tour, toi tu dessines des tempêtes. Tu restes là cloué au sol, la blessure au bord de l'air. Et si ton cri lançait la révolte, mes jambes tremblent quand tu te soulèves. Sur la baie, j'ai brisé les lois.
venera aula itako ulumenta pe yartilogo metem pe sa galo simagama chinne chinne te uma bendiga ne ngo palortaga ataata kan anara kan lo nikala gama
Ton vieux nom, Délisapi, un clin d'œil aux propos d'Alexis Wawanoloat, que l'on remercie de son passage. Merci également à Paul-Marcel Adam et Sonia Sauvette pour un couple dans le van aux éditions Château d'Ancre. Merci à notre équipe, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, la co-autrice de 14 octogénaires et nonagénaires inspirants, Judith Lachapelle, et Philippe Turchet, auteur du grand livre de la synergologie, nous parle du non-verbal au sein des rapports familiaux. Sur ce, je vous souhaite, chers auditeurs, de belles douceurs pour la semaine qui vient. On se retrouve bientôt. Au revoir.